Le journal était signé Sarah Petitbon, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Les lanceurs d'alerte sont-ils les meilleurs amis des journalistes et des administrations fiscales de certains pays en leur permettant de recouvrer des millions d'euros? Les lanceurs d'alerte sont-ils des héros ou des coupables de simples balances ou des justiciers pleins de courage? En tout cas, le statut des lanceurs d'alerte est très fragile. Selon le Conseil de l'Europe, le lanceur d'alerte est une personne qui fait des signalements ou révèle des informations, des menaces ou un préjudice pour l'intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu'elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Heureusement qu'il y a des lanceurs d'alerte et des journalistes, même si ce n'est peut-être pas le point de vue le mieux partagé. La presse a-t-elle besoin des lanceurs d'alerte, que l'on appelait autrefois, au temps du Watergate, les gorges profondes? On en parle ce matin dans Le Secret des Sources sur France Culture avec nos invités. En studio, Gérard Davé, grand reporter, l'un des enquêteurs vedettes du journal Le Monde. Bonjour.
Bonjour.
Gérard Davé, vous avez publié avec Fabrice Lhomme « Sarko s'est tué », paru chez Stock en novembre dernier. Dan Israël, journaliste à Mediapart, vous avez travaillé sur les révélations SwissLeaks lancées par Le Monde et d'autres médias internationaux. Bonjour.
Bonjour.
En duplex au téléphone, Mathieu Delahousse, grand reporter à l'Obs. Vous avez signé récemment un grand format « Qui veut museler les lanceurs d'alerte ?» Bonjour.
Oui, bonjour.
Et vous êtes également l'un des tout premiers journalistes, si ce n'est le premier, à avoir interrogé Hervé Falciani, le lanceur d'alerte dont HSBC se serait sans doute bien passé. Eh bien, vous nous en parlerez. Nos deux regards extérieurs aujourd'hui dans le secret des sources, Fabrice Lorvaux, avocat, spécialiste du droit des médias. Fabrice Lorvaux en duplex des studios de France Bleu La Rochelle et Thibault Henton pour les images et le web. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy, avec aux manettes cette semaine, Emmanuel Morse-Duncan, le clin d'œil de Yacine Bouzard, rendez-vous incontournable en fin d'émission. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Le secret n'est pas contesté par les lanceurs d'alerte. C'est la partie qui se cache derrière le secret qui est contestée, donc les dérives, les transgressions de la légalité.
Tout ceci est parti des révélations d'Edward Snowden, ce jeune homme de la NSA, la National Security Agency.
Il est facile pour ceux qui ne veulent pas que certaines choses éclatent au grand jour, de dire il y a eu violation d'un secret professionnel, il y a eu violation d'un secret d'État.
Finalement, les laboratoires Servier, fabricants du Mediator, se retrouvent devant la justice.
Et c'est un peu comme ça, on est comme ça, on regarde les de l'extérieur et on a envie que ça se sache malgré tout.
L'ancien analyste du renseignement en Irak a admis avoir transmis quelques 700 000 documents militaires et diplomatiques à WikiLeaks, la plus importante fuite de documents secrets de l'histoire américaine.
Le secret des sources.
Alors c'est un peu le sens du montage que l'on vient d'entendre. Gérard Davé, Dan Israël, les lanceurs d'alerte, héros ou balance, selon vous. Par exemple, Julian Assange, il faut le rappeler, le fondateur de Wikileaks, vit enfermé depuis plus de deux ans et demi, dans l'ambassade d'Équateur à Londres, et il risque la peine de mort. Gérard Davé, il faut du courage pour être lanceur d'alerte.
Oui, bien sûr, il faut évidemment du courage, il faut aussi une bonne dose d'inconscience, parce que le sort des lanceurs d'alerte n'est jamais très agréable après avoir révélé les informations dont ils sont détenteurs. Et il faut aussi qu'ils aient les bons relais. C'est-à-dire qu'un lanceur d'alerte sans journaliste ne sert pas à grand-chose. Vous parliez à l'instant de Julian Assange. Je pense que c'est ce qui lui a manqué aussi à un moment donné. Et je pense que les journalistes sont exactement le relais parfait pour ces gens-là, puisque nous sommes là pour les aider à trier, à hiérarchiser, à contextualiser et à crédibiliser leurs informations.
Dan Israël, le journaliste relais indispensable.
Oui, sans doute. Enfin, vous parlez de Julian Assange, qui à mes yeux n'est pas à proprement parler un lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est celui qui fournit les documents et les données à Wikileaks, qui est le site de Julian Assange. Donc en l'occurrence, Bradley Manning, un soldat américain qui a fourni énormément de choses, lui a été condamné, enfin, est en prison aux États-Unis aujourd'hui. Donc je voulais signaler, c'est ça. Après, évidemment, le travail de journaliste, c'est de classer, hiérarchiser, essayer de donner du sens et de mettre en avant des éléments qui semblent importants. Donc je pense que, oui, c'est une relation à deux.
Alors, par exemple, Hervé Falciani, l'informaticien de la banque HSBC, dont les fichiers vous permettront, à vous, Gérard Davé, avec Fabrice Lhomme, de révéler donc ce plus grand système d'évasion fiscale jamais dévoilé. Est-ce qu'au départ, la démarche d'Hervé Falciani est guidée par l'intérêt général, parce que vous nous dites qu'il va d'abord, avec son épouse, je crois, au Liban, essayer de monnayer?
Alors, il ne va pas avec son épouse, il va avec sa maîtresse, ce qui fait une différence notable. Et par ailleurs, il va effectivement essayer de monnayer les données dont il dispose. Ça, il le nie, mais il y a énormément d'éléments qui montrent qu'il l'a fait. Par la suite, il s'est ensuite mué en lanceur d'alerte. Et donc, c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre que le lanceur d'alerte n'est pas un être tracé, carré, univoque. Il y a plusieurs personnes qui cohabitent dans un lanceur d'alerte. Et au départ, je dirais plutôt qu'il s'agit d'un être opportuniste, en l'occurrence c'est Hervé Falciani, et qu'ensuite, il voit l'intérêt qu'il peut tirer de ces révélations. Et en cela, il y a des gens qui l'aident. Et ceux qui l'aident, ce sont des gens qui travaillent pour le gouvernement français et qui vont lui expliquer que non, on ne paye pas les données, mais en revanche, on peut vous aider à les reconstruire, parce que Hervé Falciani n'avait pas de nom à sa possession. Il avait des données. Et il n'avait pas les moyens techniques de reconstruire les fichiers. Et c'est grâce au gouvernement français, le fisc et la justice, qu'ils ont pu reconstruire ensuite. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a des lanceurs d'alerte différents, avec des motivations différentes, et qu'il faut, ces gens-là, qu'ils soient aidés et accompagnés pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.
Alors, Mathieu Delahousse, vous avez été le premier journaliste à interroger Hervé Falciani. C'était en décembre 2008. À l'époque, comment est-il perçu? Est-ce qu'il est déjà le héros des lanceurs d'alerte?
Alors, au départ, le terme lanceur d'alerte ne s'applique absolument pas à Hervé Falciani quand, en décembre 2008, on cherche à le rencontrer, puisque c'est la période où Éric Woerth, ministre du Budget, parle de cette fameuse liste. On est loin, à l'époque, de savoir qu'il y a autant de noms et autant d'intérêts à l'intérieur. Et Hervé Falciani, effectivement, on arrive à le localiser. On suit, à l'époque, c'est pour le journal Le Figaro, on arrive à le rencontrer. Et il faut bien dire que, d'une part, on n'avait pas du tout l'expression lanceur d'alerte à l'esprit. C'est pas il y a tant de temps, mais malgré tout, ça semble effectivement très lointain. Et par ailleurs, quand je reviens avec cette interview à la rédaction était un peu comme une poule devant une petite cuillère. C'est-à-dire que c'est un garçon qui exprime énormément de choses, mais dont on ne comprend pas totalement quelles sont les données qu'il possède et quelle est la portée explosive qu'elles peuvent avoir. J'ai relu cette interview assez récemment, notamment à l'occasion du dossier fait pour l'Obs. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, il exprime une volonté, c'est celle que la justice aille jusqu'au bout, qu'il se passe quelque chose. Après, toutes ces motivations, à l'époque, étaient extrêmement confuses et il était bien loin de faire, comme on l'a vu ces dernières semaines, les plateaux de télévision avec l'étiquette en dessous de lanceur d'alerte. Et je pense pas d'ailleurs qu'il ait eu cette motivation initiale. Elle est venue, comme le disait Gérard Davé à l'instant, elle est venue progressivement avec effectivement un opportunisme, hein, qui n'est pas un opportunisme forcément crapuleux aux criminels, mais qui est une adaptation aux situations différentes qu'il a vécues et qu'il a bien voulu imposer aux autres.
Alors comment vous faites le tri de ce qu'il vous dit lors de cette interview en décembre 2008?
Pour être très franc, la première sélection des propos d'Hervé Falciani quand je le rencontre, c'est de l'ordre de la compréhension. Hervé Falciani, à l'époque, parle crypté. On ne comprend pas ce qu'il dit. C'est un informaticien, il vient du milieu financier, du milieu informatique en Suisse, et donc on ne comprend pas quels sont les concepts qu'il transporte, on ne comprend pas à quoi correspondent finalement ces données physiquement. Est-ce que c'est un disque dur à l'époque? Est-ce que ce sont des listings papier? On ne sait pas. Et lui-même n'apporte pas du tout de réponse claire. Alors, le premier tri à avoir, c'était de comprendre si c'était quelqu'un de crédible. À l'époque, on lui pose des questions sur le Liban. Il faut bien dire que les réponses aujourd'hui, donc c'est-à-dire 6 ans après, on n'a pas de réponse beaucoup plus claire sur ce qu'il est allé faire au Liban avec des données bancaires, effectivement, en étant accompagné d'une jeune femme qui travaillait avec lui. Et le premier tri à faire, c'est de savoir est-ce qu'il est crédible. de savoir si les données ont été effectivement exploitées par la France dans un cadre légal et fiscal, ou est-ce que c'est parti dans des tuyaux à l'époque incompréhensibles. Il y a beaucoup de questions qui se posent évidemment sur les services de renseignement.
Alors on va entendre Hervé Falciani dans un entretien qu'il accorde à Gérard Davé et que l'on peut retrouver sur lemonde.fr.
Je travaillais sur différents projets, sur tous les projets sensibles pratiquement j'ai eu à travailler. Donc en étant en contact avec justement ces gens dans ces différents projets, eux me disaient, bah, tu sais, il y a ça qui se passe, tu sais que ça c'est comme si. On voit bien que ça ne fonctionne pas, que de par ce dysfonctionnement, on s'expose à bien des problèmes. On voit aussi que le système peut être utilisé pour autre chose que pour ce qu'il est prévu. Et c'est ça qui va nous amener à agir. Chacun va mettre à disposition ses données sur un cloud. Et moi, je vais m'assurer qu'on a une cohérence et on a une complémentarité de ces informations, qu'on puisse avoir une vision globale de ce qui se passe, de ce que sont les opérations de la banque.
Alors déjà on remarque que Hervé Falciani a fait beaucoup de progrès. On comprend très bien ce qu'il dit par rapport à décembre 2008 d'en parler Mathieu Delahousse. Alors ce cloud dont parle Hervé Falciani, c'est un peu la plateforme source sûre, non, que Le Monde a lancé la semaine dernière avec le soutien des quotidiens belges Le Soir, Les Libres Belgiques et la radio-télé publique belge RTBF. Plateforme sécurisée pour les lanceurs d'alerte qui leur assure un anonymat total. C'est très important l'anonymat, bien évidemment.
Oui. Alors, Gérard Davé. À l'époque, je ne sais pas du tout si Hervé Falciani avait mis ces données dans un cloud. Ça fait partie des grands mystères d'Hervé Falciani. Hein. En revanche, ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Le Monde a lancé avec la RTBF et également France Télévisions et quelques autres qui vont venir se rajouter, une plateforme extrêmement sécurisée, tout à fait moderne et très simple d'utilisation, qui s'appelle sourcesure.com, dans laquelle, si vous avez des éléments intéressants, des éléments crédibles, contextualisés, et vous souhaiteriez qu'ils soient exploités par les journalistes, et vous choisissez ceux que vous souhaitez, c'est quand même intéressant, vous choisissez La Libre Belgique, vous choisissez Le Monde ou le France Télévisions, en mettant ces données de manière très simple sur ce site, sourcesure.com, vous avez la garantie que ces données seront examinées par les journalistes professionnels et qu'ils en prendront soin, et tout en restant parfaitement anonymes. Donc, on a eu le sentiment au Monde que c'était une démarche qu'il fallait avoir au jour d'aujourd'hui parce que il nous fallait avoir d'autres sources d'approvisionnement que celles que nous avions jusqu'à présent. Alors, effectivement, il y avait d'autres plateformes qui ont existé avant, mais celle-ci, et j'ai le sentiment, pour y avoir participé à son élaboration, qu'elle est très efficiente. Et d'ailleurs, on commence déjà à recevoir nombre d'informations.
Des informations intéressantes qui ont attiré votre...
Quelques-unes, oui, mais alors, comme pour toute enquête, d'abord, il nous faut du temps et il nous faut... on ne se précipitera jamais sur ces informations-là. Ce qu'on veut donner comme garantie aux gens qui nous écriront, qui iront sur sourcesure.com, c'est que sur cette plateforme, ils auront affaire à des journalistes qui prendront leur temps, qui auront les moyens d'enquêter et qui seront contextualisés, crédibilisés. C'est-à-dire que tout ce qui arrivera ne sera pas exploité.
Dan Israël.
Oui, je me retrouve complètement dans ce que dit Gérard Davé, notamment parce qu'à Mediapart, on avait lancé aussi une plateforme qui s'appelle FrenchLeaks en 2011, qui répond exactement aux mêmes objectifs, c'est-à-dire un souci d'anonymat total, que des gens puissent envoyer des documents qu'ils estiment importants, qui sont examinés par les journalistes de Mediapart, qui sont utilisés, voilà. Donc c'est effectivement quelque chose qui fonctionne assez bien, qui s'appelle FrenchLeaks.
FrenchLeaks vous a permis à Mediapart de sortir quelle
oui,
affaire
alors, on peut pas, on ne dévoile pas nos sources, donc on ne dévoile vraiment aucune source, mais c'est une des sources qui permet d'obtenir des documents. Voilà.
Mathieu Delahousse, sans les lanceurs d'alerte, il n'y a plus de journalisme d'investigation, ou on va peut-être un peu trop loin en disant ça, de révélation, de scandale?
Oui et non, c'est-à-dire que, encore une fois, ce qui est très curieux dans ce concept des lanceurs d'alerte, c'est que je pense qu'il est vieux comme le monde, et aujourd'hui c'est un terme qui devient à la mode. Le plus frappant, c'est l'exemple dans l'affaire UBS de Stéphanie Gibaud, qui est cette ancienne directrice de la communication qui a été témoin dans le dossier pénal pour blanchiment de fraude fiscale qui vise UBS et qui est opposée également face à la banque au Prud'homme aujourd'hui. Stéphanie Gibaud, aujourd'hui, elle est sous le feu des projecteurs avec ce terme de lanceur d'alerte. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on l'interroge, elle-même raconte que les premières fois, quand elle était en contact avec des enquêteurs qui l'ont approchée, elle ne connaissait même pas ce terme. Et sa démarche n'était pas une démarche de lanceur d'alerte avec tout l'aspect généreux, désintéressé et l'aspect quasiment public et politique que ça implique. Donc, pas de journaliste d'investigation sans lanceur d'alerte, oui et non, dans le sens où, effectivement, nous, notre travail à différents niveaux est toujours d'aller voir ceux qui savent Et ceux qui savent, c'est souvent les hommes de l'intérieur, ceux qui peuvent sortir des informations, soit de façon volontaire, soit de façon intéressée, puisque ça arrive dans toutes les grandes affaires récentes, c'est souvent pour faire du mal à l'autre camp qu'on sort une information. Donc les gens de l'intérieur sont ceux qui intéressent les journalistes, et pas seulement les journalistes d'investigation, c'est ceux qui savent qui doivent nous donner l'information, donc ceux qui se brandissent lanceurs d'alerte font partie de cette catégorie.
Alors vous parliez de Stéphanie Gibault pour UBS, et c'est peut-être compliqué pour un salarié de donner des informations qui peuvent nuire à son entreprise. Il y a un contrat de travail, il doit y réfléchir, j'imagine, un peu avant de se lancer, Mathieu Delahousse.
Plus que le contrat de travail, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une vraie rupture au sens quasiment sentimental et au sens social. Ce sont des gens qui sont dans une structure, qui sont dans un univers, qui est une banque suisse, qui est effectivement un grand groupe d'assurance, un grand groupe pharmaceutique, et ils vont décider eux-mêmes de tourner le dos, d'une part à leur direction, d'autre part à la méthode de leur entreprise, mais aussi par rapport à l'ensemble de leurs collègues qui vivent sur la bête d'une certaine façon. C'est assez cynique de le dire comme ça, mais ce qui est frappant par rapport à tous ces gens-là, c'est que quand on travaille aujourd'hui dans une banque suisse qui fait ce que la justice française appelle du blanchiment de fraude fiscale, quand on décide de le dénoncer, les autres, parfois, continuent à travailler avec ce système. Et donc, on est dans une rupture sociale avec ses anciens collègues, avec tout un univers, puisqu'effectivement, pour retrouver du travail ensuite, c'est pas évident. Falcioni, pour retrouver du travail dans l'informatique, je suis pas sûr que ce soit évident. Stéphanie Gibault, elle-même, nous disait que pour retrouver un travail dans un groupe de communication, quand on sait ce qu'elle a fait contre son ancien employeur, même si c'est pour la bonne cause, ça provoque des réticences et même des peurs.
Dan Israël pour Mediapart.
Oui, donc moi j'ai effectivement beaucoup travaillé sur le dossier UBS, donc notamment avec Stéphanie Gibault et une autre source interne qui s'appelle Nicolas Forissier, qui était l'ancien responsable du contrôle interne, et d'autres personnes qui travaillent encore ou qui ont travaillé. Nicolas Forissier et Stéphanie Gibault ont été licenciés par la banque. En fait, ce qui s'est passé chez eux, c'est qu'ils ont utilisé toutes les procédures internes pour alerter leurs supérieurs en disant « il se passe des choses pas normales », à savoir l'organisation d'une filière d'évasion fiscale, tout simplement, vers la Suisse, des riches clients français. Et en interne, on ne les a pas entendus, et un peu plus que ça. On les a licenciés pour avoir dit la vérité, en fait. Donc leur motivation, elle est là-dedans. D'abord, de façon anonyme, puis publiquement. Ils témoignent, ils aident les enquêteurs, avec un S, puisque des enquêteurs judiciaires, administratifs et des journalistes, ou des journalistes, parmi d'autres, à essayer de voir clair sur la façon dont les choses se passaient à l'intérieur de la banque.
Gérard Davé, est-ce que Hervé Falciani cherche du travail ?
Oui, il en cherche et il galère, hein, mais il pointe au chômage en ce moment. Mais bon, en même temps, il a fait un bouquin, il va s'en sortir. Hein. Puis c'est un démerdard, hein, je ne m'inquiète pas pour lui. En vérité, moi, les investisseurs d'alerte, pour moi, je les appelle d'abord ça les sources. Hein, voilà. J'ai un langage de vieux journaliste déjà. Et ce sont des sources. Et donc, comme toute source, je méfie d'eux. C'est-à-dire que j'ai la plus infinie reconnaissance pour ce qu'ils font. Et en même temps, je me méfie d'eux et j'enquête sur eux pour savoir pourquoi ils veulent tout d'un coup sortir du bois, etc. Par exemple, moi, je ne connais pas très bien Stéphanie Gibault et Nicolas Forissier, mais je fais attention malgré tout à leur passé dans la banque, même si je ne les connais pas très bien. Il y a un cas célèbre qui a abusé certains médias, il s'appelle Pierre Condamin-Gerbier, qui était un cas un peu différent, mais malgré tout, un peu quand même, qui se présentait comme ça, à un moment donné, comme lanceur d'alerte. Et en vérité, aujourd'hui, cet homme-là, il apparaît que c'était un escroc de l'information. On a failli tomber dans ce panneau-là au Monde. D'autres sont vraiment tombés dedans à pieds joints. Donc, je me méfie terriblement de ça. Et je pense qu'au-delà d'enquêter sur les informations, il faut d'abord aussi enquêter sur les sources d'alerte, sur les sources, pour savoir si, effectivement, elles tiennent la route déjà, en plus de leurs informations.
Dan Israël.
Alors, je reprends la... J'explicite un peu ceux qui sont tombés à pieds joints dedans. J'imagine que dans l'esprit de Gérard Davé, c'est en partie Mediapart. Parce que Mediapart a donné assez largement la parole à Pierre Condamin-Gerbier de façon tout à fait, à mon sens, consciente. C'est-à-dire qu'on savait très bien qui il était. On savait très bien que, et d'ailleurs on l'a écrit immédiatement, que tout ce qu'il disait n'était pas forcément vérifiable. Mais en revanche, tout ce qu'on avait vérifié, on l'a écrit. Tout ce qu'on avait vérifié correspondait totalement entre ce qu'il racontait, c'est-à-dire décrire l'univers d'un monde bancaire en Suisse, de banques suisses qui organisaient l'évasion fiscale de leurs clients, tout ce qu'ils racontaient était crédibilisé par d'autres sources chez nous. Voilà. Bon, donc, je n'irai pas jusqu'à dire comme Gérard avait qu'il faut se méfier. Bien sûr qu'il faut se méfier, mais qu'on a été trompé ou que certains journalistes ont été trompés, bon, ça se discute.
On est tous trompés, de toute façon. Hein. Moi, je jette le discrédit sur personne. On l'a fréquenté, cet homme-là, au Monde aussi. Hein. On a été le voir, donc c'est très compliqué. Mais c'est pour ça que je suis d'une prudence absolue. Ouais. Voilà, Mediapart a fait son travail d'enquête. Hein. Il ne s'agit pas de jeter le discrédit sur eux.
Voilà, la mise au point est faite.
Non, j'ai plus du tout d'accès à des informations secrètes. Tout a été donné aux journalistes. J'ai détruit les autres clés, donc je ne peux pas vous révéler de scoop sur la France. Ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle de la presse maintenant. Mais ce que je peux dire, c'est que la surveillance de masse se produit dans tous les pays qui peuvent se permettre, tout pays qui peut se permettre un système de surveillance et de renseignement évolué. Par exemple, il y a eu le cas de Orange Telecom qui fournissait les télécommunications des citoyens français qu'il passait à travers le monde, à la DGSE par exemple. C'est le monde qui a sorti ça. Quand ça arrive à la connaissance du public, en ce qui concerne la politique de protection de la vie privée, ça devient très très dangereux tout ça. Même si on nous dit « Ah, c'est bien, ça nous aide pour la lutte contre le terrorisme », il faut critiquer de façon extrêmement sérieuse cela, même si ça a une certaine valeur. On peut parler de la torture aussi, si ça peut nous aider à faire face au terrorisme. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est légal de violer les droits de toute une population pour un gain très réduit? C'est une question très importante à laquelle il n'y a pas eu de réponse.
Voilà, on vient d'entendre Edward Snowden sur France Inter, chez Nicolas Demorand, le 10 décembre dernier. Alors cet informaticien, ancien employé de la CIA et de la NSA, a révélé un immense système de surveillance de masse et d'écoute de la part des services américains et anglais. Alors c'est une vraie question, celle qu'il pose. Peut-on renforcer une législation, quitte à empiéter sur les droits d'une population sous couvert de lutte antiterroriste, Gérard Davé?
C'est une question qui se pose de tout temps, surtout en ces temps de terrorisme aigu. Moi, je suis tenté de penser qu'Edward Snowden est le lanceur d'alerte absolue, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun intérêt personnel à lancer ce qu'il a lancé. Et la preuve, il vit aujourd'hui à Moscou, si je ne m'abuse. Il n'y a plus rien comme destination. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a révélé, était d'un intérêt mais absolument général. Et enfin, personne ne peut en douter. Donc la vraie question qui se pose derrière, effectivement, c'est est-ce que la NSA, c'était sa réponse, avait le droit et l'intérêt d'utiliser toutes ces procédures? En vérité, il n'y a pas de réponse absolument parfaite par rapport à ça. Parce que on voit bien qu'aujourd'hui, en France, la DGSI et comme la DGSE tentent d'obtenir des moyens accrus en matière de surveillance. Et que, à la lueur de ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, il est compliqué de ne pas leur donner aussi raison quelque part. Donc c'est très compliqué. Si on peut éviter de tomber dans le Patriot Act, évidemment. Évidemment. Mais de là...
En même temps, en l'occurrence, dans l'affaire de Charlie Hebdo, c'est pas un défaut d'information. On manquait pas d'information.
Il semble qu'il y ait eu des failles dans le dispositif. D'après ce qu'a écrit Le Monde.
Des failles dans la réaction, mais il n'y avait pas de manque.
Dans la surveillance, j'ai l'impression qu'il y avait des problèmes de moyens, de personnel. Le Monde a fait une enquête cette semaine, je crois, où ils expliquaient ça. Peut-être qu'il y avait plus de moyens. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas sonoriser une pièce de manière légale. Il y aurait une congrégation de terroristes qui se réunirait dans un endroit, on ne pourrait pas la sonoriser de manière légale. Il faudrait faire ça de manière tout à fait illégale.
Mais les services fonctionnent déjà dans une zone qui est allégale.
Ouais. Mais tout ça n'est pas écrit. Il y a des éclaircissements à avoir.
Dan Israël.
Oui, je pense qu'on aborde la bonne question, qui est la question des moyens. En fait, pour moi, l'idée n'est pas forcément de renforcer, de rajouter des lois, des règles, des moyens de surveillance, mais peut-être tout simplement de donner les moyens aux enquêteurs, aux policiers, aux services de renseignement, de faire leur travail de façon correcte, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc il y a quand même plusieurs degrés dans la réponse, dans le renforcement des moyens.
Mathieu Delahousse, est-ce qu'en démocratie, c'est le citoyen qui surveille l'État et pas le contraire?
Est-ce que c'est le citoyen qui surveille l'État et pas le contraire? Ça dépend dans quel domaine. On avait évoqué en début d'émission ces affaires de blanchiment, de fraude fiscale. Là, on parle de terrorisme dans ces circonstances particulières. C'est vrai qu'il y a une unité nationale poussée par la pression des événements qui donne l'impression qu'il faudrait encore renforcer les lois sur le renseignement qui pourtant sont extrêmement récentes. Ce qui est assez frappant si on veut croiser un petit peu les deux sujets, c'est que dans les attentats de Charlie Hebdo, la surveillance technique n'aurait sans doute pas changé grand-chose. C'est-à-dire que si la loi sur le renseignement avait poussé la possibilité d'écouter à la fois les propres cibles de la Direction générale de la sécurité intérieure, mais aussi leur environnement sur des durées plus longues, avec conservation des bandes pour pouvoir les écouter après, ça n'aurait pas changé forcément grand-chose. On fait forcément de la fiction là-dessus. Ce qui aurait changé quelque chose, c'est d'avoir un renseignement humain. Et la vraie réalité, c'est qu'il n'y a pas de lanceur d'alerte, par exemple, encore aujourd'hui, dans le monde du terrorisme. Il y a quelques djihadistes repentis qui donnent des renseignements, mais en termes opérationnels, voilà un secteur criminel par-dessus tout, qui n'a pas de lanceur d'alerte en son sein qui permette à un État de se défendre.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Thibault Henton, notre œil sur le web et les images de Laurie Edward Snowden vous intéresse beaucoup. Où en est-on des révélations Snowden? Un documentaire lui est consacré, il sort début mars, dans 15 jours.
Où en est-on des révélations Snowden? Eh bien, presque 2 ans après les premiers articles basés sur les documents révélés par le lanceur d'alerte ou whistleblower. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux termes d'ailleurs? Je ne sais pas, Gérard.
Je ne pense pas. Hein,
La différence, c'est que le whistleblowing aux États-Unis implique une législation qui existe, alors qu'en France, le statut de lanceur d'alerte est vraiment très faiblement encadré.
Whistle sifflé, blowing soufflé. Ouais.
Donc où en est-on des révélations Snowden? Impossible de toutes les synthétiser. En divers endroits de la toile, des listes sont tenues à jour, sur Wikipédia ou Cryptome par exemple. Si l'on voulait résumer, il faudrait dire très simplement qu'il n'y a plus de cachettes disponibles. L'idée de communication privée aujourd'hui via Internet appartient au passé, qu'on se le dise. Merci Snowden, nous sommes en état de cyberguerre permanente et celle-ci est largement sous-traitée à toute une industrie de la collecte et de l'analyse de données. Il y a 3 jours, énième révélation de taille, on apprenait que les agences de renseignement américaines et anglaises sont en mesure de se brancher directement sur des millions et des millions de téléphones via leur carte SIM, ces relais nichés au cœur de nos portables qui permettent la connexion au réseau et qui, rappelons-le, ne nous appartiennent jamais. La carte SIM reste propriété de l'opérateur, on ne fait que la louer. Nulle part où se cacher, donc je reprends là en français le titre du livre de Glenn Greenwald, l'un des 2 journalistes choisis par Snowden pour relayer les informations.
Et ce dont vous parlez est à la une du Monde, daté d'aujourd'hui. La NSA a piraté des quantités sidérantes de cartes SIM, Thibault.
Oui, et donc l'autre journaliste choisi par Snowden, c'est Laura Poitras, une réalisatrice de documentaires qui travaillait sur l'Amérique post 11 septembre, l'Irak, Guantanamo. Autant dire qu'elle s'est donc choisie toute seule, lui fait remarquer Snowden dans un échange restitué donc dans ce documentaire Citizen 4 qui sort le 5 mars en France et qui est nommé aux Oscars qui seront remis demain soir. Citizen 4, on entend là un extrait de la bande-son de ce film où l'on découvre un Snowden extrêmement précis qui a pesé toutes les conséquences de ses actes, qu'il ne pourra probablement plus jamais rentrer dans sa Caroline du Nord natale, par exemple. 701 000 heures de garde à vue, Alain Damasio parlait de lui comme d'un héros sobre et pâle, aussi charismatique qu'un geek délavé, qu'un étudiant qui cube en maths P. Si l'on est désormais habitué à voir Snowden intervenir en visioconférence depuis la Russie, comme dans l'extrait que vous venez de passer, Frédéric, c'est la première fois qu'il m'impressionne autant, et c'est l'art de Poitras, sans doute, dans ce documentaire, par cette manière presque élémentaire qu'il a d'expliquer ce qui ne va pas dans le fait que tout le monde aujourd'hui se sache potentiellement surveillé. Vers la 25e minute du documentaire, Snowden raconte ainsi que de nombreuses personnes lui ont confié faire attention à ce qu'il tape dans leur moteur de recherche. Et il a cette phrase très juste dont on n'a pas fini de mesurer toutes les implications. Je cite « Ça limite le champ de leur exploration intellectuelle ». Là, on voyage un peu également dans ce documentaire. On croise quelques stations de surveillance de la NSA, notamment celle de Menwith Hill Station au Royaume-Uni, comme de grosses balles de golf posées paisibles au milieu des collines. Et puis on revient à Snowden, pieds nus sur son lit dans sa chambre d'hôtel de Hong Kong, et on vit avec lui ce passage quasi instantané de l'ombre à la lumière, le coup de fil un peu flippé à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le déguisement devant la glace juste avant de quitter la chambre et ce téléphone qui se met à sonner un peu trop souvent.
Yes. No, tell her that she has the wrong number and there's no Mr. Snowden here.
Après ce coup de fil, Snowden déménage dans la chambre de Poitras et c'est le début d'une longue fuite qu'il conduira jusqu'à l'aéroport de Moscou où il restera caché 6 semaines avant d'obtenir l'asile. Nulle part où se cacher, disais-je en commençant cette chronique. Eh bien, quiconque s'intéresse un tant soit peu à la sécurité informatique et notamment donc sur ou French Leaks, sait bien que c'est exagéré et tous les autres doivent voir Citizen 4 jusqu'au générique de fin qui rend hommage aux logiciels libres et aux logiciels de chiffrement sans lesquels ce documentaire n'aurait pas été possible.
Thibaut Henton, la presse a-t-elle besoin des lanceurs d'alerte avec nos invités dans le secret des sources sur France Culture, Gérard Davé, Du Monde, Dan Israël, Mediapart, Mathieu Delahousse, L'Obs, vos commentaires sur notre site franceculture.fr. Go Out, extrait du prochain album de Wipe Out qui sort dans 2 mois. Un événement puisque Blur n'avait pas sorti l'album depuis 16 ans, me signale Vincent Abouchard, notre réalisateur. Alors on va rejoindre en duplex de La Rochelle dans les locaux de France Bleu, Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste du droit des médias. Alors je sais Fabrice que ce sujet des lanceurs d'alerte vous passionne, les lanceurs d'alerte sont utiles aux journalistes, à la société, mais les lanceurs d'alerte prennent des risques. Quels sont ces risques et quel est leur statut légal, Fabrice ?
Alors, le statut légal des lanceurs d'alerte, c'est un nouveau venu dans le monde juridique. Le lanceur d'alerte, c'est celui qui va dénoncer. Or, dans notre système légal, il n'y avait jusqu'à très récemment que pas ou très très peu d'obligations de dénoncer, c'est-à-dire de porter à la connaissance d'une autorité, notamment judiciaire, des faits auxquels on n'est pas parti. Hein. Parce que le lanceur d'alerte n'est pas parti à ces faits. S'il est parti, il dépose plainte. Aujourd'hui, dans le système français légal, vous n'avez pas d'obligation de dénoncer, sauf, pour être très précis, lorsqu'un crime est en train de se commettre ou lorsque vous avez connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles qui sont infligées à des personnes vulnérables. En dehors de ça, la culture française fait que vous n'avez pas l'obligation de dénoncer. Et même si vous dénoncez des faits alors que vous savez qu'ils sont faux, vous pouvez être puni pour dénonciation calomnieuse, et c'est 5 ans de prison ou 75 000 euros d'amende. Donc, ce concept de lanceur d'alerte, il était inconnu de notre droit et il est arrivé très très récemment et de manière parcellaire. La première apparition date de 2007 pour tout ce qui était signalement de faits de corruption. On a eu après une loi en 2011 qui était pour la sécurité sanitaire du médicament, mais c'était uniquement au bénéfice du personnel médical. Ça a été étendu en 2013 à la santé publique et à l'environnement, pour terminer en décembre 2013, à couvrir tous les délits et tous les crimes. C'était une loi pour réprimer de lutte contre la fraude fiscale. Donc aujourd'hui, le droit positif, c'est que le statut du lanceur d'alerte va protéger le signalement fait par toute personne, dès lors qu'elle est salariée ou fonctionnaire, d'un fait découvert dans l'exercice de ses fonctions, ça c'est très important, qui est porté à la connaissance donc maintenant soit de l'employeur, de l'autorité judiciaire ou même d'un tiers, ce qui permet d'alerter la presse. à la condition donc qu'on le fasse de bonne foi. Parce que si on fait un signalement de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire, ou si on a connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics, eh bien là encore, ce sont les peines de la dénonciation calomnieuse, 5 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Voilà. Donc, cette protection aujourd'hui, telle qu'elle est donnée, conférée par la loi, c'est uniquement pour protéger le salarié, pour qu'il ne soit pas sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire du fait de sa révélation.
Alors, Fabrice, est-ce que le statut de lanceur d'alerte peut-il être perfectible et doit-il encore être amélioré ?
Je pense que ce qu'il est important d'indiquer à nos auditeurs, c'est que c'est un concept qu'il faut vraiment utiliser avec prudence. Pour ma part, je considère que le meilleur lanceur d'alerte, c'est celui qui est anonyme et qu'on ne connaît pas. Et donc, s'il y avait effectivement un statut à améliorer, je pense que c'est celui du secret des sources, puisqu'on sait qu'il devait être réformé en 2013, et depuis 2013, le projet Taubira est un peu dans les limbes parlementaires, même si le président de la République a, en janvier 2015, dit que ce projet devrait sortir cette année. Donc, s'il y a un ajout à faire, une amélioration, c'est au niveau du secret des sources. Et en fait, ce statut protecteur, pour moi, c'est un parachute de secours. Il ne devrait effectivement intervenir que si le secret des sources n'est pas respecté, et on sait que ça arrive, ou si c'est le lanceur d'alerte qui a décidé de lui-même d'aller sous les feux de la rampe et de s'exposer directement au public. Et ce statut, même si il a le mérite au moins d'exister, il connaît quand même certaines limites. D'abord, il faut que le lanceur d'alerte soit un fin juriste, parce qu'il n'est protégé que s'il révèle des crimes et des délits. Il ne faut pas, par exemple, qu'il dénonce une contravention, même une contravention de cinquième classe, parce que là, le statut ne s'applique pas. On sait qu'il doit être de bonne foi, et sinon, il peut tomber sous le coup de la loi pénale. La protection qui est conférée, elle est limitée uniquement, quelque part, à un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que si, après, le salarié a une difficulté avec son employeur, ça sera à l'employeur de montrer que la mesure qu'il a prise n'a pas eu pour cause la révélation faite par le lanceur d'alerte. Alors, on sait quand même que les employeurs sont quand même un petit peu intelligents et donc ils ne vont pas forcément afficher leur décision sur le fait qu'il y a eu une révélation. Et c'est là où on va rentrer dans un statut qui est quand même un petit peu difficile parce qu'on va se retrouver dans des longs débats devant le Conseil des prud'hommes. Par exemple, il faut rappeler que la personne, le chercheur qui avait révélé les risques sur les éthers de glycol, il avait été licencié en 1994. Il a fallu attendre la décision de la Cour de cassation de 2000 pour que son licenciement ait été considéré comme étant illégal. Donc c'est vraiment un statut qui a le mérite d'exister, mais qui parfois n'est appliqué qu'après un long débat judiciaire, sans parler aussi du risque, par exemple, d'autres domaines de loi, par exemple comme le secret des affaires, qui peut être revendiqué par l'employeur. Bon, on sait qu'il y avait un projet de loi récemment, en août 2014, qui prévoyait que ce secret des affaires ne s'appliquait pas aux lanceurs d'alerte. Pour le moment, la loi n'a pas été votée.
Merci Fabrice Lorvaux. Gérard Davé, vous avez donc révélé avec Fabrice Lhomme la semaine dernière dans Le Monde ce grand système d'évasion fiscale jamais dévoilé, une enquête spectaculaire par le nombre de clients de la filiale suisse d'HSBC, 100 000 noms, le montant de la fraude, 180 milliards d'euros. Et c'est une période très petite, novembre 2006, mars 2007. Ça veut dire que c'est le fil d'une énorme pelote de laine, non ?
Oui, on est qu'au tout début de tout ça. Et ce qui est passionnant, le débat s'est un peu cristallisé autour des noms avec Fabrice Lhomme, ça nous a un peu étonnés parce que on a donné quoi 5% des noms, quoi, même pas. On a donné peut-être une centaine ou 150, il y en a 110 000. Et le problème n'est pas là, le problème c'est le vaste système de fraude fiscale et tout ce qu'il y avait autour. Et on voit qu'en Angleterre, par exemple, ce qui se passe est absolument passionnant. C'est pas Dan Israel, enfin, il connaît bien tout ça, il observe bien l'économie de la presse, il connaît bien comment ça fonctionne. C'est passionnant ce qui se passe au Télégraphe, par exemple. L'éditorialiste qui démissionne parce que le Télégraphe quotidien conservateur n'a pas souhaité traiter du dossier HSBC, ça veut dire des choses. En Suisse, les journalistes se rebellent aussi aujourd'hui parce que pendant très longtemps, la justice suisse a fermé les yeux et a poursuivi Falciani, mais n'a pas voulu voir le vaste système qui était organisé par les banques qui étaient sur leur sol. Donc moi, je suis très content d'au moins un truc avec Fabrice Lhomme. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un coup de pied dans la fourmilière et que les choses bougent maintenant. Et on n'a pas été les seuls. Hein. Mediapart, avec son travail d'enquête, a fait avancer les choses dans plein de domaines. Nous, Cahuzac, ça a été quand même quelque chose qui a déclenché aussi une prise de conscience. Aujourd'hui, nous, on donne un coup de pied dans la fourmilière. Je pense qu'on n'est qu'au début d'une vaste forêt de révélations.
Vous avez été surpris quand vous reproche d'avoir donné des noms. Vous avez hésité d'ailleurs avant de donner les noms.
On savait pertinemment que le débat, à un moment donné, se cristalliserait là-dessus. On ne pensait pas que ce serait nos actionnaires qui viendraient nous reprocher. Mais pour le reste, c'était pas...
Pierre Berger a été
Pierre
très
Berger,
dur. Hein.
Oui, mais bon, on leur laisse une entière liberté de parole comme ils nous laissent une entière liberté d'action. Donc moi, ça me va très très bien, ça, franchement.
Dan Israël, il fallait révéler les noms.
Oui, surtout ce débat sur les noms est un peu étrange parce que Le Monde, Challenge et Mediapart, en 2013 et 2014, avaient déjà sorti plein de noms, y compris ceux qui ont été rappelés par Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Ce qui est vraiment très intéressant dans l'enquête et le travail qu'ils ont développé, c'est qu'on voit à quel point, enfin c'est les répercussions internationales, c'est qu'on voit que l'argent qui était chez HSBC était l'argent des financiers du terrorisme, était l'argent des narcotrafiquants. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de retenir dans ce travail qui est vraiment formidable. Et on parlait de la Suisse. Il y a quelque chose qui est très frappant, moi qui me frappe, c'est on va dire cette tendance, cette mode, comme on veut, des révélations à plusieurs médias, gros médias qui font un gros coup médiatique avec un fort impact, ça oblige les politiques et la justice à bouger. La Suisse, les deux procureurs suisses viennent d'ouvrir une enquête sur HSBC en Suisse. Aujourd'hui, suite aux révélations du Monde, du Temps, etc., c'est un petit peu une blague, si je peux me permettre. Ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'ils ont les éléments. Non ? Donc, moi, ce qui me frappe, c'est que quand il y a un gros coup médiatique, ça fait bouger les choses.
Est-ce que ce que dit Dan, si je puis préciser...
Allez-y, Gérard Davet.
C'est tout à fait vrai. Et c'est quelque chose qu'on a découvert nous-mêmes avec Fabrice Lhomme. On a tous les deux, on approche de la cinquantaine avec Fabrice. On est plutôt connus pour être des francs-tireurs, des loups solitaires. On a découvert le fait de travailler dans un collectif, de travailler avec d'autres journalistes pour sortir en même temps un scoop. Et on a vu l'impact que ça avait et aussi à quelle force ça nous donnait et également quelle obligation de réflexion supplémentaire ça nous donnait. Et c'est très intéressant, ça nous a fait réfléchir aussi par rapport à ça, très sincèrement, à la façon d'agir aussi en France. Et on s'est dit qu'effectivement, plutôt que de se tirer dans les pattes, mieux valait être extrêmement efficace de manière très collective, quoi.
Le secret des sources.
L'actualité de la semaine à l'étranger, marquée par la guerre en Ukraine et un cessez-le-feu qui ne tient pas. Marc Crépin, correspondant de Radio France à Moscou, est en ligne avec nous. Bonjour Marc.
Bonjour à tous.
Alors vous rentrez tout juste d'Ukraine, Marc Crépin, vous êtes rendu à Kiev bien sûr, mais aussi dans le Donbass, un territoire ravagé par la guerre et une ville coupée du monde, des balles CV.
Oui. En fait, nous sommes déplacés, c'est un peu comme pour les enquêtes dont vous parliez, avec deux confrères. Nous sommes partis d'une ville profondément séparatiste, Dniepropetrovsk, et nous avons alterné les lieux pro-séparatistes et les lieux anti-séparatistes, parce que il est important de vérifier ce qui se passait au-delà de la propagande, des torrents de propagande, de vérifier les faits. Et puis aussi, d'autre part, d'essayer de voir un petit peu quelle était l'approche prospective de ce qui se passait sur le terrain. Que voit-on ? Des gens qui n'en peuvent plus, des civils hagards, perdus, des gens stressés, terriblement inquiets. La capitale régionale Donetsk, qui avait encore 100 millions d'habitants au début de l'été dernier, est déserte à présent, tout comme sa banlieue, tout comme au nord, donc la ville de Debaltseve, que vous évoquiez, ou une autre qui s'appelle Popostna. Elle vient, l'une et l'autre, d'être abandonnée par les forces de Kiev après 3 semaines de harcèlement de la part des séparatistes. Elles sont ravagées, détruites à 80%, une ville où plusieurs centaines de personnes ont sans doute perdu la vie. À Donetsk, il reste actuellement 300 000 habitants, des vieillards, des gens isolés, des enfants, des gens pauvres qui ne peuvent pratiquement plus partir, ou en tout cas, c'est devenu très difficile pour eux, et ils sont bloqués par l'armée ukrainienne qui impose depuis un mois la détention d'un laissez-passer pour franchir les fameux checkpoints, les blockposts en russe. Elle craint, en effet, cette armée, l'infiltration des séparatistes en zone ouest. Alors, Donetsk est une ville étranglée, étouffée, pour ne pas dire assiégée. Les approvisionnements y entrent au compte-gouttes et on craint un terme, si ça continue, une catastrophe humanitaire.
Alors Marc, on a beaucoup parlé des accords de Minsk cette semaine qui ne sont pas respectés. Est-ce qu'une force de maintien de la paix souhaitée par le président Porochenko dans l'Est a une chance de voir le jour ?
Aucune chance. En tout cas, de façon légale, avec, par exemple, le vote d'une résolution des Nations Unies, ce qui devrait être obligatoire, donc pour le permettre, en principe, c'est la règle. On sait que parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité siège la Russie, et Moscou a déjà prévenu, il n'est pas question que des forces étrangères soient présentes à sa frontière, ne serait-ce que pour jouer les casques bleus. Et puis, vous le savez, nous l'avons tous constaté sur le terrain, les volontaires russes, les armements, les munitions, les blindés, l'aide aussi. Tout cela passe et repasse par la même frontière avec la Russie, environ 150-200 kilomètres de frontière ouverte. Et Moscou n'a aucune envie, mais absolument pas, que quiconque vienne observer ses allées et venues.
Alors, sur quoi Vladimir Poutine serait-il prêt à faire des concessions, Marc Crépin ?
Tout le monde se le demande. Il n'en a fait aucune jusqu'ici. Ce qui se passe dans le Donbass après l'annexion de la Crimée le montre suffisamment. Il tient beaucoup, malgré tout, à sauver les apparences de la légalité internationale. Vous savez, il continue de soutenir, d'armer et de financer le conflit du Donbass tout en affirmant rejeter toute solution militaire. Donc, pas vraiment de concession. En fait, pour sauvegarder ses fameuses apparences, les apparences de sa bonne volonté, il répond toujours aux invitations à un dialogue, à un débat, ce que mène actuellement, en tout cas depuis une dizaine de jours, François Hollande et Angela Merkel notamment. Mais ce ne sont que des échanges et sur le fond, il continue d'affirmer qu'à Kiev, il y a eu un coup d'État, qu'il y a des nazis partout, qu'il y a des fascistes. Et il est très très difficile, jusqu'ici en tout cas, d'obtenir de lui qu'il aille au-delà et qu'il fasse pression sur les séparatistes pour qu'ils respectent les fameux accords de Minsk II.
Marc Crépin, correspondant de Radio France à Moscou. Le clin d'œil de l'émission spéciale Lanceur d'alerte est signé Yacine Bouzard.
Il m'est arrivé un truc de dingue. J'ai reçu à la rédac un enregistrement qui met en cause des personnalités haut placées. Hein. Et là, je me retrouve dans une spirale infernale.
Dîne à l'enregistrement, il l'utilisera. Et quand il le fera, je veux sa crédibilité. Je veux que la population sache qu'il ment, avant de l'entendre.
Si on enlevait sa femme et son fils, il abandonnerait.
On aurait la police et le FBI aux fesses en moins de 24 heures. Espionnez les putains de numéros qu'il appelle le plus souvent et insinuez-vous dans sa vie. Je veux tout savoir de ses parents, tout savoir de ses dettes de jeu. De ses analyses d'urine, je ferai tout ce qu'il m'est possible de faire pour l'abattre.
Et comment tu t'en es sorti ?
Eh bien, un bon samaritain m'a filé un coup de main.
Il pénètre dans ton compte en banque, tes données informatiques, tes emails, ils mettent les téléphones sur écoute. Plus on est branché technologique, plus c'est facile pour eux de tout mettre en fiche. Et le meilleur des mondes, il paraît. Enfin, ça devrait l'être.
Et maintenant, tu fais quoi ?
Bah franchement, autant te le dire tout de suite, depuis cette histoire, je me tiens à carreau. Je suis au service sport, moins dangereux.
Le sport moins dangereux, quoique c'était le clin d'œil de Yacine Bouzard. Merci à tous, l'émission touche à sa fin. Merci à nos invités, Gérard Davé, grand reporter et enquêteur vedette du journal Le Monde, auteur avec Fabrice Lhomme du livre « Sarko s'est tué » paru chez Stock en novembre dernier. Dan Israël, journaliste à Mediapart, était avec nous également. En duplex, Mathieu Delahousse, grand reporter à l'Obs, et vous avez publié avec Thierry Lévesque « Cash Cash ». Enquête sur l'argent liquide illégal qui circule en France, chez Flammarion. Merci également à Marc Crépin, que l'on vient d'entendre, correspondant de Radio France à Moscou, de retour d'Ukraine. Nos deux regards extérieurs de l'émission qui nous ont accompagnés aujourd'hui, Fabrice Lorvaux, avocat, spécialiste du droit des médias en duplex de La Rochelle. Et merci à France Bleu La Rochelle pour nous avoir prêté ses studios et avoir assuré cette liaison de qualité. Merci à Thibaut Henton, toujours connecté, pour les images et le web. Dans les coulisses de l'émission, les indispensables Mathias Mégy, Vincent Abouchard, pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr, avec aux manettes aujourd'hui Emmanuel Morse d'Incan. Dans un instant, le journal de Sarah Petitbon, suivi de répliques. Que veut la Russie ? Alain Finkielkraut reçoit Françoise Thom et Andrei Gratchov. C'était Le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur Culture.
Hervé Falciani, c'est un garçon qui exprime énormément de choses, mais dont on ne comprend pas totalement quelles sont les données qu'il possède et quelle est la portée explosive qu'elles peuvent avoir. Après, toutes ses motivations, à l'époque, étaient extrêmement confuses et il était bien loin de faire, comme on l'a vu ces dernières semaines, les plateaux de télévision avec l'étiquette en dessous de lanceur d'alerte.
En vérité, moi, les lanceurs d'alerte, pour moi, je les appelle d'abord ça les sources. Voilà, j'ai un langage de vieux journaliste déjà. Et ce sont des sources. Et donc, comme toute source, je méfie d'eux. C'est-à-dire que j'ai la plus infinie reconnaissance pour ce qu'ils font. Et en même temps, je me méfie d'eux et j'enquête sur eux pour savoir pourquoi ils veulent tout d'un coup sortir du bois, etc.